Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Bonjour. Au cours de cette émission, composée de deux parties, Canal Académie se propose en effet de vous faire découvrir deux initiatives, deux créations qui suivent un même objectif, mettre la Bible à la portée de tous, mieux la faire connaître. J'ai donc le plaisir de recevoir, pour commencer cette émission, Éric Denimal. Éric Denimal, bonjour.
Bonjour.
Éric Denimal, vous êtes journaliste, théologien, pasteur évangélique. Vous êtes pasteur de l'Église évangélique libre à Nîmes,
oui.
Où vous officiez,
oui.
Où vous avez un mandat pastoral à Nîmes. Et donc là, nous vous recevons de façon spécifique aujourd'hui devant les micros de Canal Académie pour la sortie d'un livre qui traite du best-seller de l'humanité, que vous mettez, Éric Denimal, à la portée de tous, la Bible pour les nuls. C'est paru aux éditions First dans le cadre de cette série pour les nuls. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots de cette série? Parce que
oui.
Je vois dans le service de presse l'instruction civique pour les nuls, le sexe pour les nuls, l'adolescence pour les nuls, le Louvre pour les nuls.
Alors, il fallait bien un petit peu aussi la Bible pour les nuls. Hein.
Voilà. Oui. Alors, quelle est la philosophie de cette...
En fait, cette collection s'est fait connaître avec l'informatique pour les nuls. Hein. Tout a commencé par là. Et tout le monde était nul en informatique. Et le reste d'ailleurs. Donc cette collection a eu la bonne idée de proposer une espèce de cheminement pédagogique sur le sujet de l'informatique. Et ça a extrêmement bien marché. Et à partir de ce moment-là, l'éditeur s'est dit bon, on peut peut-être étendre un petit peu notre éventail et a commencé la musique pour les nuls, l'anglais pour les nuls,
réfléchi à plusieurs
voilà,
domaines.
Voilà, toutes sortes de choses. Aujourd'hui, la collection, elle est incontournable. On la trouve dans toutes les librairies un peu partout. Elle est très reconnaissable. Parce que, un peu comme l'ancienne collection du masque, c'est
jaune et
noir.
Tout à fait.
Donc, c'est très repérable. Et puis, un jour, je me suis dit, tiens, je vais contacter cette maison en leur demandant s'ils n'ont pas l'idée de faire la Bible pour les nuls.
Alors, pourquoi cette idée, Éric Denimal, vous qui êtes pasteur?
Alors, en tant que pasteur, j'ai toujours eu beaucoup le souci, et en tant que journaliste, j'ai toujours eu beaucoup le souci de transmission, de faire connaître.
Communication.
De communication, dans un sens de vulgarisation aussi, d'explication. Parce que le journaliste fait ça, il y a une information, il la transmet pour que tout le monde puisse la comprendre, ou en tout cas essayer de la comprendre. Et dans ce souci qui a toujours été le mien, j'ai toujours souffert de constater que la Bible, qui est à la fois le livre le plus traduit au monde, le plus diffusé au monde depuis l'invention de l'imprimerie, reste le best-seller avec... Aujourd'hui, quelques 2500 langues de traduction pour la Bible. Il n'y a aucun livre qui connaît un tel succès. Malgré cela, la Bible est en même temps le livre le moins lu, le moins connu ou le plus mal connu. Et ce n'est pas parce que les gens ont, par exemple, été voir les 10 commandements en comédie musicale que d'un seul coup, ils ont fait leur catéchisme. Donc, moi, j'étais un petit peu préoccupé de ce que je connaissais en tant que théologien, en tant que pasteur et que je trouve... extraordinairement intéressant, ne dépasse pas le parvis de mon église, en quelque sorte. J'avais envie d'aller un peu plus loin. Et en discutant un jour avec un ami, et à ce moment-là, j'étais éditeur, je lui ai dit, tu vois, il faudrait faire un livre de vulgarisation. Alors, il dit, ben oui, mais fais-le, édite-le. Je dis, oui, mais si je l'édite, moi, je suis un éditeur protestant, je suis dans un créneau, dans une niche, les Français parlent aux Français, les protestants parlent aux protestants, et finalement, ça ne va pas plus loin. Il faudrait quelque chose comme la Bible pour les nuls. Et une fois que j'ai dit ça, je me suis dit, mais vous savez, c'est comme les vieilles émissions de Bourrel, mais bon sang, mais bien sûr, mais quelle idée, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Et à partir de ce moment-là, l'idée a commencé à germer dans ma tête, et puis j'ai pris contact avec l'éditeur en me posant la question de savoir si, parce que justement, je suis allé voir ce que faisait l'éditeur, j'ai vu qu'il faisait plein de choses pour les nuls dans sa collection, je me dis, bah, tu vas voir qu'ils l'ont fait et que tu ne le savais pas. Et puis finalement, j'ai lancé ma bouteille à la mer, en quelque sorte, hein, un mail comme ça, envoyé à l'éditeur, et j'étais très surpris dans les 24 heures de recevoir une réponse qui disait, mais votre idée est excellente, venez nous en parler.
Et c'est un travail, le vôtre, Éric Denimal, qui poursuit celui entrepris par les grands réformateurs avec l'invention de l'imprimerie, avec la divulgation, avec la traduction dans la langue vulgaire de la Bible pour que tous puissent avoir accès à l'éducation par l'intermédiaire de cette lecture biblique.
Tout à fait. Avec ce souci qui est important pour moi, ce que je voulais proposer, c'était une présentation de la Bible qui fasse aimer la Bible. Pas nécessairement l'adopter, pas nécessairement y adhérer, mais arrêter de dire des bêtises sur la Bible, hein, ou prétendre qu'on la connaît alors qu'on ne la connaît pas. Mon souci, c'était vraiment de présenter une œuvre. Alors bien sûr, cette œuvre, quand je l'ouvre, j'ai une lecture croyante, mais je ne voulais pas présenter une lecture croyante. Il ne s'agissait pas de faire un livre confessionnel. Il s'agissait de faire un livre pour le grand public, en essayant de le prendre là où il était, avec la certitude que, de toute façon, sans vouloir être méchant, mais qu'il était vraiment nul dans le domaine, dans le sens où, aujourd'hui, on le sait, les jeunes d'aujourd'hui et leurs parents n'ont pas souvent été catéchisés, n'ont pas reçu une instruction religieuse ou une instruction biblique. On a jeté cette éducation-là depuis longtemps. Et donc, il y avait vraiment un terrain énorme à conquérir, en quelque sorte, mais avec beaucoup de respect et avec beaucoup de... Alors là, c'est le côté très protestant, libre penseur, objection de conscience. On a le droit d'y croire, on a le droit de ne pas y croire, mais au moins regarder. Voilà, ça c'était mon objectif. Et l'avantage avec cette maison d'édition, avec First, c'est que justement, cette maison est là. D'abord, elle n'est pas confessionnelle. Il ne s'agit pas d'une maison d'édition comme Bayard ou comme d'autres maisons qui sont confessionnelles. Là, il s'agissait d'une édition grand public, avec un souci pédagogique, avec un souci de vulgarisation et de lisibilité.
Alors nous allons y revenir, Éric Denimal. Vous allez nous expliquer très précisément comment vous avez procédé pour offrir cette visibilité, cette clarté, cette transparence de texte, cet accès premier au texte. Mais une réflexion peut être faite en ce sens qu'avec la laïcisation, finalement, cette Bible qui s'est démocratisée, qui est ouverte à tous maintenant, retourne un peu dans le cénacle des gens de connaissance et des croyants, comme vous nous en parliez tout à l'heure. C'est une réflexion intéressante par rapport à notre époque.
Oui, moi il me semble que le danger avec la Bible, c'est qu'elle n'intéresse ou qu'elle ne passionne qu'une catégorie de personnes, qui seraient des chrétiens. Hein ? Et je le dis dans les premières pages de la Bible n'a pas le droit d'être confisquée par les chrétiens. La Bible est un ouvrage qui est pour l'ensemble de l'humanité. À la limite, on n'a pas besoin de croire en son message pour considérer que son message est juste, malgré tout. Il y a bien sûr une dimension spirituelle, mais il y a aussi une dimension éthique, il y a une dimension humaine, il y a une dimension de solidarité humaine, il y a des préceptes qui sont valables en politique, qui sont valables en sociologie, qui sont valables en économie même. Et on n'a pas besoin, si vous voulez, d'être chrétien ou de croire pour considérer que ces valeurs, les valeurs qui sont véhiculées, sont justes malgré tout. Et du coup, il me semble qu'il fallait rappeler que la Bible était un patrimoine de l'humanité, ce qui est le thème de la nouvelle exposition de la Société biblique française. La Bible, patrimoine de l'humanité. Pas patrimoine de l'Église ou patrimoine du christianisme, mais de l'humanité tout entière. Parce que c'est un livre qui vient nous rejoindre. Et pour qu'on s'en rende compte, il faut l'apprivoiser.
Et pas la cantonner à une morale chrétienne.
Non, alors ça, c'est la pire des choses. Si d'ailleurs on faisait une étude plus sérieuse, plus théologique, quand on regarde ce qu'a fait Jésus, c'est à chaque fois casser ces
barrières. Le moule des traditions.
Le moule des traditions, jusqu'à dire le temple, il peut disparaître. Ce n'est pas là ou là qu'il faut croire, c'est intérieurement. Et donc, tout le message évangélique est en plus un message qui casse les structures. Il n'y a rien qui tue plus le spirituel que le rituel. Et là, on est entré bien souvent dans une appropriation du texte en tant que croyant, en disant « c'est mon texte, il m'appartient ». Et je décide aussi la façon dont je vais le lire. Et ce qui est dramatique, c'est ça qui fait que les églises sont divisées, qu'il y a plusieurs interprétations qui font des clans et qui font des batailles.
Mais l'interprétation, Éric Denimal, vous qui êtes pasteur théologien, est légitime. On doit s'approprier
bien
quelque
sûr.
Part, mais dans un esprit de partage, d'ouverture et de découverte de l'appropriation qu'en a faite l'autre.
Tout à fait. Alors, c'est là où c'est important. Il faut toujours aussi respecter l'avis de l'autre. J'ai le droit d'avoir mon interprétation du texte, tout à fait, et c'est ça qui crée finalement mes bases. Mais je dois toujours être d'une grande humilité, parce que mon interprétation n'est jamais qu'une interprétation. Je peux très bien me tromper dans ma façon de lire le texte. Je commence à avoir un certain nombre d'années de lecture biblique. Je vous assure que si je regarde ce que j'ai pu dire il y a 30 ans et ce que je dis aujourd'hui du même texte biblique, je me rends compte que ma lecture a complètement changé, que non seulement elle a parfois été très différente, mais parfois elle est opposée à ce que j'ai osé dire, il y a 30 ans, avec l'assurance que ce que je voyais, ce que je disais et ce que je croyais était juste. C'est là où je dis qu'il faut avoir énormément d'humilité. Et là, je dois dire que ce que je trouve extraordinaire chez les rabbins, par exemple, et dans tous les textes rabbiniques, c'est qu'eux aussi ont une lecture de l'Ancien Testament, une lecture de la Torah extrêmement profonde, extrêmement forte. Chacun apporte aussi son interprétation, mais les interprétations se cumulent les unes les autres, tandis que chez nous, elles s'excluent. Et ça, c'est une grande différence. J'aime beaucoup mieux que chacun puisse apporter sa pierre en disant « on peut aussi lire comme ça, on peut lire comme ça, on peut lire comme ça, et c'est juste aussi ». Plutôt que de dire « il n'y a que moi qui sais lire correctement ». Parce que quand je dis « c'est moi qui ai raison », je m'approprie le texte et le texte est emprisonné dans mon raisonnement et dans ma construction intellectuelle, théologique, ecclésiologique et autres. Et là, je deviens propriétaire du texte, alors que je n'ai pas le droit de l'être. Je suis un lecteur du texte, je suis un serviteur du texte. Et je crois que ça, c'est une des choses qui est importante, fondamentale. Et à partir du moment où j'ai ça dans mon esprit, je peux très bien présenter le texte pour qu'il soit lisible pour chacun.
Alors, comment avez-vous fait? Comment avez-vous procédé pour offrir cette Bible pour les nuls? Donc, un texte qui offre une lisibilité, une clarté plus grande que celle des traductions précédentes, peut-être? Ou alors, c'est dans la présentation, de quelle traduction vous êtes-vous servi? Expliquez-nous tout ça, parce alors, qu'il y a beaucoup de questions.
Oui. Alors, en fait, d'abord, il faut dire que la Bible pour les nuls n'est pas une traduction de la Bible. C'est une présentation du texte. C'est une espèce de... Moi, j'aime bien utiliser l'expression, c'est un chausse-pied. C'est un chausse-pied qui permet d'emboîter et d'aborder la Bible en ayant un certain nombre d'éléments qui me permettent de mieux la comprendre.
Un mode d'emploi?
Un mode d'emploi. Bible, mode d'emploi, ça aurait pu être valable, sauf que le titre existait déjà et que le livre existait. Donc, en présentant cela, j'ai voulu réaliser ce qui était mon rêve depuis longtemps, à savoir atteindre le grand public, celui qui ne connaît pas, celui qui n'a pas de culture religieuse, j'entends, de culture biblique, quelqu'un qui est assez neutre, qui est curieux, qui veut bien savoir, qui n'a pas envie d'être embrigadé, et je respecte aussi cela, bien sûr, mais qui a envie de connaître. Et quand j'ai commencé à travailler là-dessus, moi qui pensais que j'étais déjà un bon communicant, parce que j'étais un peu journaliste, ça faisait 10 ans que j'étais
Oui, vous avez une jolie formule, parce que vous avez beaucoup de casquettes, Éric
Denimal.
Quelle est cette formule?
J'ai eu la chance tout au long de ma vie, actuellement je suis pasteur, j'ai été journaliste, j'ai été éditeur, et j'aime à dire que j'ai souvent changé de métier, mais j'ai toujours gardé le même patron. D'un seul coup, je me suis rendu compte que si je voulais parler à mon voisin qui n'y connaissait absolument rien, je ne devais pas simplement utiliser des termes plus simples, mais des concepts différents. C'est-à-dire que finalement, au bout d'un certain temps, quand on connaît la Bible, quand on a une lecture un peu théologique, etc., on a une construction, on comprend le principe, on comprend les desseins de Dieu, on comprend les logiques, etc. Et tout ça, c'est une structure. Or, cette structure, on n'entre dedans que quand on connaît bien le texte et quand finalement cette structure, elle s'édifie au fur et à mesure. Et puis quand je parle ensuite à quelqu'un qui n'y connaît rien, je dois carrément sortir de la structure qui est mon schéma mental parce qu'en face, le schéma n'est pas du tout le même. Et donc, il me faut déconstruire en quelque sorte. Il me faut d'un seul coup, non pas prêcher, mais raconter. Et ça, c'est une des choses aussi fondamentales dans ce texte, c'est raconte-moi la Bible, raconte-moi finalement, raconte-moi. J'ai pas envie que tu me prêches, j'ai pas envie que tu me fasses un discours, j'ai pas envie que tu me fasses un truc hyper savant, mais je veux que tu me racontes, mais il faut aussi que ce que tu me racontes soit juste, crédible, tienne la route. Et c'est une des choses qui a intéressé l'éditeur quand on a discuté, etc. L'éditeur, ce qui l'intéressait, c'était le fait que j'étais à la fois journaliste et théologien. Théologien pour le sérieux du travail de fond, et puis journaliste dans la façon de transmettre. C'est-à-dire que je n'étais pas un ecclésiastique qui allait parler du haut d'une chaire quelconque, j'étais le vulgarisateur de service. Et je suis entré dans ce rôle-là avec bonheur, tout en me rendant compte qu'il fallait que je retraduise tout ce que je savais, non pas pour dire celui qui est en face de moi est un enfant, il faut vraiment baisser le niveau, c'est pas ça du tout, c'est il me faut être à sa hauteur, il me faut être à sa hauteur, il me faut entendre ce qu'il ne comprend pas, il faut que j'anticipe. Et c'est à ce moment-là où, au fur et à mesure que j'écrivais, je voyais que tel mot ne pouvait pas aller. Parce qu'il y avait dans ce mot un concept qui n'était pas un concept ni religieux ou qui était trop marqué religieux. Il y a des termes qui sont très simples, je vais en prendre un. On dit facilement dans la Bible, il faut louer l'Éternel. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire louer ? Ben, on loue un appartement, on loue une maison. Mais louer quelqu'un, déjà, c'est rare. Surtout à notre époque où on critique tout le monde, donc on ne loue pas souvent quelqu'un. Mais quand on loue quelque chose, on ne loue pas quelqu'un. Alors, parler de la louange, parler de louer l'Éternel, rien que cela, qui est très bien compris dans n'importe quelle entité œcuménique, est incompréhensible pour quelqu'un de l'extérieur. Et alors, quand on entre ensuite dans des concepts qui sont ceux du sacrifice, de la substitution, etc., alors là, on commence à dire...
C'est un travail énorme. Parce que c'est une mise à plat des textes pour... une meilleure redistribution du texte, une meilleure présentation et un meilleur partage avec l'autre.
Et je dois dire qu'un des modèles pour la communication à ce niveau-là, c'est aussi Jésus. C'est assez impressionnant. D'abord, Jésus, s'il avait été à notre époque, il aurait été un publicitaire remarquable parce qu'il avait l'art de la formule. En une formule, il vous disait un truc mieux que n'importe quel publicitaire aujourd'hui.
Il déplaçait des montagnes.
Et il déplaçait des montagnes. Et des expressions sont entrées d'ailleurs dans le langage populaire qui montrent bien que ces expressions sont fortes. Et puis, il avait une façon d'expliquer et puis de surprendre, d'attirer les foules.
D'imager.
Aujourd'hui, on a le même message, mais on ne rassemble aucune foule. Aucune foule. Et moi, je trouve ça quand même dommage, parce qu'on a un trésor à montrer. Il est là à disposition et finalement, on ne sait pas le montrer.
Alors, je vois deux grandes parties. La Bible décryptée et puis deuxième partie, la Bible, une épopée inégalée. Alors, parlez-nous de ces deux parties et de quoi sont-elles constituées ?
Je pense qu'une des grandes difficultés, ça a été effectivement de dire à quel point la Bible était un texte important. Pas un texte du passé, pas un texte simplement religieux, mais un texte qu'il fallait saisir à bras le corps, parce que, en fait, l'ensemble de la Bible, quand on regarde de près, ce n'est pas nécessairement une liste de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. C'est une longue saga humaine. Alors, bien sûr, on commence avec la création du monde, une lecture de la création du monde, et puis il y a une focalisation d'un seul coup, un gros plan qui est fait sur un personnage qui va être Abraham, et à partir de là, une famille, et puis une tribu, et puis un peuple. Et on va suivre cette saga avec des épopées incroyables, avec des histoires d'amour, avec des histoires de haine, avec des histoires de propriété, de pouvoir, de jalousie, de sexe, de violence, de meurtre,
de trahison. C'est un Dallas de l'époque.
C'est un Dallas, mais hyper, enfin c'est une fresque hollywoodienne. D'ailleurs, Hollywood s'en est parfois saisi de quelques épisodes. Mais derrière toute cette histoire-là, ce n'est pas simplement une histoire pour raconter l'histoire, derrière toute cette histoire-là, il y a des principes. Parce que même si les époques changent, les principes restent les mêmes. Les hommes sont toujours les mêmes. On pense qu'on a évolué, mais on n'est pas nécessairement beaucoup meilleur que nos ancêtres. Et ce qui fait vivre l'homme et la femme, ce qui forme vraiment une vie, ce qui fait palpiter un cœur, les ressorts, etc., sont toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. On a changé le décor, on a des moyens différents, on a des moyens techniques différents. Mais l'amour, la trahison, la haine, le pouvoir, la possession, etc.
Donc la Bible parle de nous. Elle parle de vous, elle parle de moi, elle parle de chacun d'entre nous.
Exactement. Et c'est ça qui est assez passionnant. Parce que quand, par exemple, je lis l'histoire de David et que je dis « Ah, c'est un grand roi, c'est un roi magnifique, etc. » Et puis d'un seul coup, il commet un adultère. Bon, bah, d'accord. Quel est le président de la République qui n'a pas commis adultère ? Bon, il y a des enfants cachés parfois, mais non seulement il commet adultère, ce qui n'est déjà pas bien, mais en plus il va tuer un rival, il va mettre en place tout un scénario pour tuer quelqu'un, pour se débarrasser de quelqu'un.
Donc David a sa part d'ombre lui aussi.
Oui, mais on se dit, mais comment on peut à la fois chanter Dieu, chanter des cantiques, exalter l'Éternel, et puis écrire noir sur blanc, cet homme-là, je n'en veux plus, vous le mettez à tel endroit, il faut qu'il se fasse assassiner, débrouillez-vous, etc. Qu'est-ce qui se passe dans une tête pour qu'il y ait une telle dichotomie, pour une telle schizophrénie? Et quand on étudie le texte, on réfléchit, et c'est ce que j'ai fait, et je me rends compte que, bah, par exemple, concernant cette histoire, 20 ans plus tôt, David a été victime exactement de la même situation. Son futur beau-père a voulu se débarrasser de lui. Il l'a aussi piégé, presque de la même façon, sauf que lui, il est revenu. Alors David, qui est revenu de là où on voulait pas qu'il revienne, va utiliser un stratagème quasiment identique lorsqu'il va falloir se débarrasser de quelqu'un. Mais il va le peaufiner parce que lui, il en est revenu et il ne faudrait pas que celui qu'il met maintenant dans la nasse, il ne faudrait pas qu'il en revienne. Et donc, on voit tout ça et on se rend compte, par exemple, que, eh bien oui, si j'étais victime un jour de quelque chose, je dois faire attention parce que 20 ans plus tard, je vais peut-être être bourreau en utilisant les mêmes armes.
Il faut apprendre la résilience de Boris Cyrulnik.
Voilà, exactement. Il faut apprendre à résilier. Quelle est la leçon de l'histoire? Et là, on se rend compte que, eh bien, on est toujours dans les mêmes schémas.
Dans les mêmes cercles.
Exactement. Et c'est là où la Bible est passionnante. Parce qu'elle me dit, fais attention à qui tu es, regarde-toi. Si tu ne sais pas te regarder toi-même, regarde David, regarde Abraham, regarde Isaac, regarde Jacob, regarde Jésus, regarde Pierre, etc. Tu vas les critiquer, mais finalement, derrière chacun de ces personnages, tu y es aussi.
Tu y es aussi. Et là, je trouve que c'est le magnifique message de Jésus qui se met en route en disant « Mais qui est ton père, qui est ta mère ?» C'est un peu ce qu'il veut nous dire. Oui. Ce n'est absolument pas le reniement de nos familles, loin de là.
Non, non.
Mais c'est de dire « Nous sommes des êtres qui peuvent être nouveaux, casser leurs chaînes et rompre les cercles. »
Tout à fait.
Les cercles d'enfer dont vous nous parliez tout à l'heure.
Tout à fait. Et c'est là où, si vous voulez, c'est là où je vois que la Bible est passionnante. Et puis, si vous voulez, il y a le contenu de la Bible. Et puis, il y a l'histoire de la Bible elle-même, la transmission, etc.
Mais alors, est-ce qu'on trouve tout le contenu, tous les textes dans la Bible pour les nuls, paru aux éditions First, sous votre plume, Éric de Nimal? Est-ce que tous les textes sont là?
Oui,
premier, deuxième testament?
Tout, absolument tout. Il y a une analyse de chacun des livres de la Bible. Il y a des citations de chacun des livres de la Bible. J'ai voulu montrer aussi que la Bible, c'est un ensemble de livres. Hein, c'est une bibliothèque à elle toute seule. Donc, il y a des textes qui sont des textes législatifs. Il y a des textes qui sont des textes poétiques, des textes de sagesse, il y a des récits, il y a des lettres, il y a des chroniques de guerre, etc. Donc il y a des styles automatiquement extrêmement différents. Je peux expliquer qu'il y a des styles différents, mais le meilleur moyen de le montrer, c'est de proposer des citations. Alors il y a des citations de chacun des livres bibliques. La plupart du temps, j'ai choisi comme traduction la Bible en français courant parce que justement, on travaille sur l'accessibilité du texte. Donc je n'ai pas cherché, même s'il y a de très belles traductions, la Pléiade, la Tob, la Jérusalem ou la Nouvelle Bible Second, je ne les ignore pas naturellement. Il y a même un chapitre qui dit,
mais il fallait faire un choix.
Voilà, il faut faire un choix. J'explique même l'histoire des traductions, les traductions actuelles, pourquoi telle est meilleure que l'autre, etc. J'ose dire qu'il y a une époque où les traductions elles n'étaient pas toujours fiables, mais qu'aujourd'hui, la plupart des théologiens sont extrêmement honnêtes, travaillent correctement, ils travaillent souvent catholiques, protestants, orthodoxes ensemble. Donc, on a une bonne fiabilité du texte. Donc, montrer aussi qu'on peut lire la Bible français courant ou bien dans une langue plus littéraire ou pourquoi pas en bande dessinée. Le Nouveau Testament étant en manga actuellement. Donc, on montre aussi comme ça la modernité du texte ou la capacité qu'a ce texte à être transmis dans des médias plus modernes.
Éric de Nimal, la Bible pour les nuls par aux éditions First, déjà un succès de librairie, 70 000 exemplaires de vendus, un ouvrage à acheter et à remettre à tous nos ados.
Oui, tout à fait. Alors, je dois vous dire un petit secret. Hein, on est entre nous. Je viens de signer avec la maison d'édition un nouveau travail à faire, la Bible junior pour les nuls.
Parfait. Alors, je vous demandais pour préparer cette émission, quatre termes, quatre mots pour définir votre travail. Vous m'avez fait parvenir les mots suivants, les phrases suivantes, se laisser apprivoiser par la Bible, proposer une présentation lisible et complète de la Bible, ça nous l'avons compris. Sans interprétation, la Bible à l'état brut, ça je crois qu'il faut le dire et le
tout
redire.
À fait, oui.
Non seulement la Bible, mais l'histoire de la Bible et ses influences dans notre culture, vous l'avez bien souligné il y a un instant. Alors, quelques mots sur l'accueil maintenant des grands cénacles religieux autour de la venue de cette Bible pour les nuls.
Je dois dire que j'ai été très agréablement surpris. Parce que lorsqu'on a élaboré le projet avec l'éditeur, à un moment donné, d'un seul coup, l'éditeur a eu un doute. Parce que bon, la collection pour les nuls, ça existe, voilà. Donc, quand c'est les chats pour les nuls, quand c'est la musique pour les nuls, quand
là, c'était
c'est
un autre
l'orthographe
domaine.
Pour les nuls, là, bon, ça passe. Et puis d'un seul coup, l'éditeur s'est dit, oulala, mais la Bible pour les nuls, comment ça va passer? Et l'éditeur a quitté son bureau et a fait 200 mètres, est allé dans la plus grande librairie religieuse de Paris, du côté de Saint-Sulpice. Je ne vais pas la... Vous voyez de quoi je parle.
La dénoncer.
Voilà, je ne vais pas la dénoncer. Et cet éditeur est allé voir le responsable en disant, bon, vous connaissez notre maison d'édition, vous connaissez notre collection, quelle serait votre réaction si, d'un seul coup, vous voyez arriver la Bible pour les nuls? Est-ce que vous le mettez en vitrine ou est-ce que vous le cachez sous le comptoir? Et le responsable a dit, mais nom d'un chien, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt?
Ah, d'accord.
Alors là, c'était vraiment, je ne dis pas l'imprimatur, mais
non,
presque.
Non, mais presque. On peut les citer, ce sont nos amis de la procure.
Voilà, tout à fait. Et donc là,
C'était vraiment gagné.
Et puis après, j'étais énormément invité à différents endroits. Alors bien sûr, dans des radios ou des choses comme
des
ça, mais parfois aussi des conférences, mais parfois aussi carrément dans des cénacles catholiques.
Mais alors, est-ce que ce titre... Pour les nuls, est-ce que ça ne va pas arrêter certaines personnes en disant « pour les nuls, ce n'est pas pour moi ». Parce qu'on doit y apprendre, même si on a déjà lu la Bible, même si on a déjà lu beaucoup de notes la concernant, beaucoup de traductions, etc. On doit apprendre d'un travail nouveau. Est-ce que ce titre-là ne va pas, ou alors la curiosité va peut-être jouer son effet?
Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en général, l'accueil a été très positif. Parce que beaucoup de gens, quand ils ont vu ça dans les librairies, ont très bien compris qu'il s'agissait de la collection pour les nuls.
D'accord.
À partir du moment où on a compris que c'était la collection pour les nuls, ça allait. Certains ne connaissaient pas la collection, donc du coup, ils ont été choqués. J'ai reçu notamment la lettre d'une dame, manifestement une dame catholique, qui était dans un grand magasin et elle a vu la Bible pour les nuls. Elle m'écrit « Je suis restée devant ce titre, peut-être 3 ou 4 minutes, mais complètement scandalisée, scotchée sur place, en disant « c'est pas possible, ils ont osé faire un truc pareil, c'est incroyable ». Et puis elle dit « J'ai surmonté ma crainte, ma répulsion,
ma stupeur,
j'ai acheté le livre ». Et je vous écris pour vous dire que j'ai trouvé ce livre absolument passionnant. Je l'ai lu comme un roman. Je vais le relire avec ma Bible à côté pour pouvoir vérifier un certain nombre de choses. Mais voilà, je dois attendre que mon mari ait terminé la lecture. Mon mari qui est libre penseur, il est plongé dedans, il ne lâche pas. Et là aussi, pour moi, c'était exactement ce que je cherchais. Alors, bien sûr, il y a toujours des gens qui ne sont pas tout à fait contents. Ils auraient voulu qu'il y ait plus ceci ou plus cela.
Oui, après, parce que chacun
voit le livre qu'il aurait écrit s'il avait eu le courage de l'écrire.
Non, mais pour l'ensemble de l'œuvre, aucun tollé, généralement.
Non, pas du tout.
Donc,
au contraire.
Éric Denimal, merci. Revenez nous voir pour la parution. Donc, ça s'appellera La Bible pour les nuls.
La Bible junior pour les nuls.
Voilà.
Oui, parce que la collection est en train de sortir une série pour les juniors. Ils vont commencer avec l'histoire de France et l'Égypte, je crois. Donc ça, ce sera dans quelques mois dans les kiosques. Et puis, au début de l'année prochaine, je l'espère, j'ose pas dire Dieu voulant, mais La Bible junior pour les nuls. Je suis en train d'y travailler.
Eh bien, longue route et belle vie à la Bible pour les nuls, écrit par vous, Éric Denimal, et paru aux éditions First. Merci à vous.
Merci à vous aussi.
Canal Academy reçoit maintenant, dans la deuxième et dernière partie de cette émission, Bernard Coyot. Bernard Coyot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général de l'Alliance biblique française. Alors, pour commencer cette conversation, cet entretien, parlez-nous de l'Alliance biblique française, création, mission, philosophie de cette institution.
Alors, l'Alliance biblique française est une vieille dame, puisqu'elle est née en 1818 et sa vocation, dès les origines, était de traduire la Bible et de la diffuser. Alors, les années ont passé, donc c'est un mouvement qui est né au sein du protestantisme français. Et au XXe siècle, dans les années 70, on va dire, sa mission s'est élargie à une collaboration, disons, interconfessionnelle avec l'Église catholique. Bon, c'est la suite de Concile Vatican II, de l'ouverture, des possibilités de traduire ensemble la Bible, parce qu'au fond, ce n'était pas une évidence dans l'histoire de la Bible, du christianisme. Et donc, à partir des années 70, donc, cette ouverture du conseil d'administration et des partenariats avec le monde catholique, et plus récemment encore, dans les années 90, après que la chute du mur et l'ouverture de sociétés bibliques dans les ex-pays de l'Union soviétique, eh bien, le partenariat s'est élargi avec le monde orthodoxe. Ce qui fait qu'au niveau mondial, puisqu'en fait, dans chaque pays, il y a une société biblique, et ici en France, bien sûr, eh bien, il y a cette ouverture, ces partenariats avec les diverses composantes du christianisme, protestant, catholique, orthodoxe. Donc, au fond, dans cette mission de traduire la Bible, de la diffuser et de donner envie aux gens aussi de la découvrir, c'est peut-être la mission essentielle aujourd'hui, eh bien, c'est une mission qui est vécue donc avec ces valeurs de dialogue et d'ouverture, avec des partenariats multiples, y compris dans la sphère non confessionnelle, des partenariats plus d'ordre culturel, on va dire.
Oui, alors vous nous parliez de vieille dame, ses origines remontent à 1818, et donc l'Alliance biblique française est une association loi 1901 sans but lucratif et interconfessionnelle. Promouvoir la Bible dans un esprit d'ouverture, c'est ce que vous nous expliquez, sans prosélytisme ni parti pris doctrinal. C'est un angle philosophique, un parti pris difficile à suivre ?
Difficile, non, dans le concret de notre travail, de nos missions, mais dans la perception qu'ont les gens de nous, oui, parce qu'au fond, quand on dit Bible, on pense tout de suite à ce qu'elle peut être ou qu'elle a pu avoir été, comme parfois un outil un peu de propagande ou de, qui a suscité aussi parfois beaucoup de choses positives, mais des choses moins positives. Et donc, il y a parfois quelques préjugés, surtout dans notre pays, en France, avec, disons, notre principe de laïcité. C'est parfois important pour nous de dire que la Bible n'est pas seulement un livre pour les croyants, qu'elle appartient à tous, qu'elle fait partie d'un patrimoine, d'un héritage duquel tous peuvent profiter, bien sûr dans une approche de foi, mais aussi dans une approche culturelle ou de sagesse. Enfin, voilà, il y a plein de motifs pour lesquels les gens s'intéressent à la Bible. Alors, voilà, on cherche beaucoup à promouvoir cette dimension d'ouverture et de dialogue pour sortir la Bible des églises et la sortir peut-être des préjugés qu'elle suscite.
Faire connaître la Bible est la mission principale de la Société biblique française.
Voilà. Alors, j'ai toujours tendance à élargir au-delà de la France parce qu'on travaille beaucoup pour la francophonie. Et puis, comme dans chaque pays, sur tous les continents, il y a 147 maintenant sociétés bibliques. Donc, dans certains pays, dans certains lieux, il faut encore la traduire et elle n'est pas facilement accessible pour des questions logistiques ou pour des questions de tous ordres, de moyens matériels, etc. Mais ici, en Europe et en France en particulier, évidemment, tout le monde peut se procurer une Bible. Encore faut-il s'y retrouver dans les traductions et autres.
Voilà, c'est ça.
Mais
parce que
c'est surtout aider les gens à la découvrir ou à la redécouvrir comme un lieu d'ouverture et un lieu de culture, la faire connaître, la faire peut-être apprécier, redécouvrir. Voilà, ça, c'est pas évident. Donc, c'est une mission essentielle pour nous. On s'est donné quelques moyens, quelques missions supplémentaires, en plus de la traduction, parce qu'on travaille beaucoup toujours à la traduction et à la création d'outils bibliques. Mais disons, par le moyen, peut-être on va en parler, d'expositions, et on cherche à rejoindre le grand public et à faire connaître la Bible.
Oui, alors comme vous le disiez, qui dit Bible parle de traduction. La vocation interconfessionnelle de l'Alliance biblique française fait que vous travaillez sur quel support, sur quelle traduction ? Est-ce qu'il y a un livre référence sur lequel s'appuie la Société biblique française, puisque la Société biblique française est la branche aussi éditoriale de l'Alliance biblique française.
Expliquez-nous. Voilà. Alors c'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'effectivement on a une association 1901 pour toutes ces actions de promotion, de faire découvrir la Bible culturelle, mais bien sûr cette Bible on l'édite aussi et la loi française nous impose d'avoir une structure éditoriale. Donc on a appelé Société biblique française. Donc c'est la même maison, si vous voulez, l'association et la maison d'édition. Donc nous sommes propriétaires de 5 traductions dont certaines appartiennent à l'héritage protestant, issu de la Bible Second, mais la plupart de nos traductions, donc à commencer par la TOB, traduction œcuménique de la Bible, donc ont été faites à partir d'équipes interconfessionnelles, donc avec déjà cette ouverture qui est un peu une garantie pour le lecteur que la Bible ne va pas porter une idéologie d'une église ou d'une autre, mais qu'elle est faite avec des gens de différentes sensibilités et orientations. Donc ça se neutralise un petit peu pour être fidèle au texte source et pas aux doctrines particulières d'une église ou d'une autre.
Donc il y a actuellement sur votre site de l'Alliance biblique française, qui est très bien fait et dont nous donnerons les coordonnées aux auditeurs de Canal Academy, ces 5 diverses parutions, oui, de traductions de la Bible.
La Bible a connu toutes sortes de supports, hein, depuis les premiers supports en papyrus jusqu'à aujourd'hui l'ère du numérique. Eh bien, la Bible elle doit être éditée et disponible, pas seulement en version livre, mais aussi, pourquoi pas, sur les téléphones portables et donc sur les sites internet.
Alors, et ça, vous y travaillez ?
On y travaille, on essaye de suivre les évolutions. Mais en tout cas, sur notre site, effectivement, on a mis, ça c'est un petit peu original et ça pourrait intéresser les auditeurs, on a mis une sorte de moteur de recherche qui permet de comparer nos 5 traductions en simultané. On peut en choisir 1, 2, 3, 4 et découvrir le même texte et chercher telle ou telle référence, donc en comparant les versions. Donc ça, c'est un petit plus qu'on a mis à disposition des internautes. J'insiste un petit peu sur la traduction ensemble, interconfessionnelle de la Bible. Ça paraît une évidence, évidemment, qu'au minimum, les chrétiens avec les juifs traduisent la Bible ensemble, mais c'est tout récent.
Ça serait bien que ce soit une évidence.
Voilà, c'est tout récent. En fait, la première Bible au monde qui a été traduite ensemble, eh bien, c'est la TOB, justement, dont on est fier d'avoir participé au chantier, d'en être l'éditeur avec les éditions du CERF. eh bien, c'était la première fois, donc en 75, donc c'est-à-dire un peu plus de 30 ans.
Ça a été un événement.
Voilà, c'était un événement mondial. Donc on oublie voilà, que la Bible, avant de réunir, de rassembler les gens, a parfois été vraiment un moyen de se...
Les églises se sont chacune appropriées leur traduction biblique. Et là, c'est un moment d'échange, un moment de travail en commun.
Voilà, alors tout ce qu'on fait, que ce soit des révisions, des nouveaux outils bibliques. Là, par exemple, on travaille à la traduction de la Bible en langue des signes. Alors peut-être on va expliquer si on a le temps tout à l'heure, mais c'est un peu inattendu.
Oui, alors
mais
dites-nous.
Mais à chacune de nos équipes, nos chantiers éditoriaux, si vous voulez, se font toujours dans cette perspective de collaboration. Alors, ça suscite des discussions, ça nécessite de créer une équipe, des gens qui ne se connaissent pas, qui viennent de sensibilités, de parcours différents, qui peu à peu arrivent à travailler ensemble. Donc, c'est un de nos d'être aussi que la Bible, avant de la diffuser, de la présenter au grand public, elle permet aussi de rapprocher les gens, de le faire se connaître, enfin, d'être une plateforme justement de dialogue et d'ouverture. Ben, c'est une belle mission aussi.
Une mission biblique, s'il en est. Mettre la Bible à la portée de tous, c'est ce que vous nous expliquez un instant, avec la Bible en langage des signes. Alors, voilà. Racontez-nous.
Alors, c'est une histoire, voilà, on va essayer d'être clair, simple. Alors, bien sûr, les personnes sourdes, a priori, ont les capacités de lire, puisqu'elles ont des yeux pour voir. Mais l'accès à la lecture est difficile pour les personnes sourdes, parfois même une forme d'illettrisme, si vous voulez. Et en tout cas, puisque la lecture fait partie du système du monde entendant, donc les sourds, évidemment, doivent essayer de s'adapter au monde entendant, mais leur propre culture, leur propre manière d'être s'exprime à travers une langue qui leur est propre, et qui n'est pas simplement une espèce de code juste pour essayer de se comprendre, mais qui est une vraie langue, la langue des signes, avec une vraie manière de construire les phrases et donc d'appréhender le monde. Et cette langue des signes, qui a longtemps été interdite, alors qu'il existe depuis l'aube des temps, le fait que les sourds s'expriment par des signes, mais qui a été, comment dire, codifiée et travaillée par l'abbé de l'Épée, donc un Français, il y a deux siècles ou à peu près, pardon, je n'ai pas révisé mes classiques. Pendant 100 ans, de 1880, il y a eu à Milan une conférence européenne qui interdisait de pratiquer la langue des signes pour les sourds, qui devaient s'adapter, donc oraliser et s'adapter au monde entendant. Donc il y a une espèce de minorité persécutée pendant 100 ans, on ignore cette histoire.
Ah oui, on l'ignore
et,
assez.
Qui fait que la langue des signes s'est développée, mais toujours dans un contexte d'oppression et de dévalorisation. Et c'est seulement jusque dans les années 70, 80, c'est un mouvement, si vous voulez, de revendication identitaire, de contestation,
légitime,
qui est parti des États-Unis, qui est arrivé en Europe et qui a fait qu'on a repris la langue des signes comme étant un élément, une affirmation identitaire, une vraie langue, une vraie culture, qui ne doit pas être un ghetto. Et si vous voulez, en France actuellement, parce que donc, chaque pays a sa langue des signes. Alors c'est un peu décevant, on pourrait penser qu'elle est universelle, mais en même temps, la syntaxe, c'est-à-dire la construction des phrases est la même, mais le vocabulaire est différent d'un pays à l'autre. Vous mettez des sourds de plusieurs pays ensemble, au bout d'une semaine, ils se comprennent, parce qu'au fond, ils ont la même structure de langue, et c'est simplement les mots de vocabulaire qui doivent s'adapter. Mais cette langue des signes donc, est maintenant remise en valeur, et il y a environ 100 000, 150 000 personnes qui la pratiquent en France. Et pour la première fois, donc là, on fait office un peu de pionnier, on a traduit une œuvre littéraire. Alors bien sûr, ce n'est pas n'importe laquelle, c'est un évangile, donc c'est aussi un lieu de foi, mais c'est aussi une œuvre littéraire, encore une fois,
tout
du
l'évangile,
patrimoine. Alors tout l'évangile de Luc, eh bien, ça représente 8 heures de film. Alors c'est sur un DVD, puisque c'est une langue qui se visualise. Donc c'était un énorme travail qui nous a pris 3 ou 4 ans pour un seul évangile. On a mis plusieurs groupes de traduction au travail, avec des personnes ressources, des biblistes et des professeurs de langue des signes, sourds. Donc c'était un projet entre sourds et entendants, entre catholiques, protestants et non-croyants, et qui aboutit donc 9 groupes en France, 5 groupes, et puis un groupe en Belgique, 2 en Suisse, 1 au Congo, et qui aboutit à ce DVD, donc cette première œuvre littéraire mise en langue des signes, et qui sera lancée en mai 2010. C'est-à-dire au moment où nous parlons, tout prochainement. C'est un grand aboutissement pour nous. Voilà, ça fait partie d'un nouveau public qu'on essaye de rejoindre.
La Bible à la portée de tous et notamment des jeunes. Comment permettre aux jeunes d'entrer dans la Bible qu'ils perçoivent souvent comme un livre difficile? C'est l'un des objectifs, je crois, aussi assez essentiel de votre mission.
Voilà, alors c'est un autre chantier, un chantier éditorial aussi, donc de préparer une édition de la Bible, donc intégrale, hein, donc c'est pas une Bible pour enfants, mais à destination...
Premier et deuxième testament.
Voilà, à destination des 15-20 ans, on va dire, c'est-à-dire avec le texte et un certain nombre de notes au fil du texte, d'explications, et non pas de catéchisme, hein, donc simplement d'ouverture sur le texte pour mieux le comprendre, et de fiches thématiques aussi sur certains thèmes, des fiches personnages, des parcours de lecture. Voilà, une sorte de bible d'études destinée à faciliter la lecture et la découverte de la Bible pour des jeunes publics.
Un grand chantier qui mobilise 100 biblistes, écrivez-vous, responsables de jeunes, hommes et femmes de France, Suisse, Belgique et plusieurs pays d'Afrique qui travaillent à la rédaction de notes, de fiches thématiques et de parcours de lecture,
voilà,
etc.
Voilà, donc ça nous a pris encore plus de temps que la langue des signes et... On est bientôt arrivé au bout du parcours, mais la Bible elle-même ne paraîtra qu'au printemps 2011. Voyez, on est sur des durées un peu longues, hein, donc on n'est pas tout à fait dans l'actualité, mais sur des chantiers un peu longs. Les gens n'imaginent pas en fait que la Bible, on l'achète comme ça en librairie, elle demande toujours beaucoup de travail, hein, de rédactionnel, de préparation. Et traduire une Bible en tant que telle, c'est en tout cas une quinzaine d'années.
Alors vous dites, vous écrivez, pour tous, rédacteurs et comités, il s'agit de trouver le ton juste, sans esprit racoleur ou simpliste, en respectant le jeune et son cheminement. Une belle projection,
un beau souhait.
Projet. Alors, dans les autres visibilités de la Bible, dans les autres communications que vous avez tenues à faire, il est maintenant très important de mentionner cette belle exposition qui a été inaugurée officiellement dans les salons de l'UNESCO, le mois dernier.
Au mois de février, oui, début
mois de février. Et maintenant, cette grande exposition, la Bible patrimoine de l'humanité, va se convertir en exposition itinérante. Alors, racontez-nous ça, Bernard Coyot. Je rappelle aux auditeurs qui nous rejoignent que vous êtes secrétaire général de l'Alliance biblique française.
Alors voilà, cette exposition, la Bible patrimoine de l'humanité, donc je pense que son nom donne un petit peu l'axe de travail qu'on a suivi. Pendant quelques années, 3 années, on a préparé cette exposition destinée alors à un public très large, donc une sorte d'outil de culture populaire, de découverte de la Bible. Alors c'est une exposition ambitieuse, hein, donc elle fait 350 mètres carrés, hein, faut s'imaginer, ça prend un grand hall d'exposition. Alors il y a toutes sortes de, il y a des modules, il y a toute une pédagogie sur différents thèmes, mais l'objectif donc c'est de rejoindre un public, puisque c'est pour ça qu'elle est itinérante, et en particulier, mais pas seulement évidemment, le public des scolaires, parce que peut-être si nos auditeurs doivent se rappeler que la Bible, elle est enseignée dans classe de lettres en 6e, en français. Donc ça fait partie de le fait religieux et la Bible et d'autres livres comme ça de religieux.
De l'enseignement général.
Font partie de l'enseignement général. Alors voilà, c'était aussi une manière de donner un outil pour les scolaires, mais bien sûr pour tous les publics. Alors voilà, ce travail, pour lui donner la tonalité juste, enfin la philosophie qui avait présidé à nos travaux, on a souhaité l'inaugurer à l'UNESCO. Donc pour signifier à la fois sa dimension culturelle, de ce patrimoine, comme je le disais tout à l'heure, qui appartient à tous, qui est partagé par tous, et pas la propriété de certains, et la dimension culturelle, donc, et également sa dimension interculturelle, puisque la Bible, au fond, n'est pas née sous nos cieux européens, elle est née au Proche-Orient, et puis surtout, aujourd'hui, elle est dans le monde entier, elle a été traduite dans toutes sortes de langues, et elle a voyagé à travers les cultures, elle-même a été lue, comprise dans des contextes très différents, et cette exposition a souhaité aussi prendre en compte cette dimension des cultures du monde, et comment la Bible est reçue dans différentes cultures. Donc, dans notre culture, donc souvent les gens ignorent un petit peu les traces qu'a laissé la Bible dans notre calendrier, dans les expressions du français, dans différents lieux de la vie quotidienne qu'elle a pu influencer, mais aussi donc, dans le monde entier. Et l'exposition, c'est un des axes de cette exposition, de faire découvrir sa dimension culturelle. Alors l'UNESCO, quel plus beau lieu. Je faisais visiter cette exposition à des jeunes des classes de 6e, hein, de l'enseignement public, de Vitry. Alors vous voyez, des classes de la diversité, comme on dit, où il y avait des jeunes d'origine africaine, maghrébine, et beaucoup de musulmans qui étaient là à visiter cette expo sur la Bible. Et alors l'un d'eux, très spontanément, a dit « Ah mais alors l'UNESCO, il y a toutes les langues, il y a tous les pays, c'est un peu comme la Tour de Babel, vous voyez ?» Alors donc le lien était fait assez naturellement. Donc cette exposition, voilà, qu'on a inaugurée à l'UNESCO avec tout un ensemble de conférences aussi, mettant en valeur la dimension interreligieuse, puisqu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut lire encore la Bible simplement dans la sphère des croyants qui s'en réclament, c'est-à-dire le judaïsme, les chrétiens ? Non, au-delà aussi. Donc on est dans ce contexte d'ouverture sur les cultures, sur les religions, et c'est dans ce contexte-là qu'on a envie de poser la Bible. Que chacun s'y sente libre et sans contrainte de venir y puiser ou y découvrir ce qu'il peut peut-être recevoir. Alors, donc voilà, c'était toute sa démarche. Et maintenant, elle continue effectivement à voyager en France et un peu dans la francophonie, donc au-delà
on
des
on va voir
mers.
Ces lieux et ces différentes dates. Mais pour compléter vos propos, Bernard Coyot, je citerai ceux de votre collaborateur Mathieu Arnera, chef de projet responsable de cette exposition à l'Alliance biblique française. Mathieu Arnera qui a écrit « La nouvelle exposition permet d'éclairer les questions que nos contemporains se posent sur la Bible. Le visiteur construit lui-même son itinéraire, s'arrête sur les sujets qu'il souhaite approfondir. Il peut glaner une nouvelle information, passer d'une thématique à une autre et lire, écrire, toucher, voir, écouter la Bible. En de nombreux endroits, des Bibles permettent une approche directe du texte lui-même. Ailleurs, la possibilité est donnée de s'exprimer, d'écrire son avis sur les découvertes au fil de la visite. » Donc, une scénographie originale, une pédagogie interactive et l'utilisation des ressources multimédia. Donc, autant de moyens mis à la disposition de tous et qui a dû certainement séduire le jeune public.
Oui, mais c'était le pari de cette exposition, c'est qu'à la fois un public tout à fait néophyte pouvait s'y retrouver, et y compris donc des jeunes, enfin on va dire à partir du secondaire, enfin des collèges.
Oui, des collèges.
Mais
voilà.
Également des gens plus érudits. Alors il y a un système de niveaux, si vous voulez, d'information.
Voilà, il y a des niveaux d'information
voilà,
différents.
Ou des gens qui ont beaucoup de connaissances déjà et de familiers de la Bible peuvent aussi y trouver beaucoup d'informations nouvelles. Et en fait, comme vous venez de l'expliquer, de le lire, c'est vrai que c'est cette dimension que cette expo n'est pas seulement là pour parler de la Bible, mais à l'intérieur de ces différents modules, faire lire la Bible. Et donc, le visiteur passe de spectateur à acteur. Lui-même peut comparer, il y a des systèmes d'onglets, et entrer dans la démarche de lecture et d'interprétation, qu'il soit croyant, encore une fois, ou non croyant. Alors, c'est vrai que la présence du ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, aussi à l'inauguration, était pour nous un moment très important pour encore signifier ce positionnement particulier. Et puis, la directrice générale de l'UNESCO, Madame Irina Bokova, avait écrit un discours aussi. Et alors là, pour nous, c'est un label incroyable, un peu inattendu, inespéré. C'est une belle récompense où elle reconnaissait vraiment la qualité de cette exposition et la fierté pour l'UNESCO d'être l'écrin de cette exposition. Voilà, c'est un moment très fort pour nous et on espère que ce label, en quelque sorte, qu'on a pu recevoir en passant à l'UNESCO, donnera aussi confiance aux villes qui accueilleront l'exposition pour dire que ce n'est pas un outil de propagande, encore une fois, mais une exposition culturelle et qui permet à chaque visiteur de faire tout un voyage et des découvertes. Le ministre de la Culture, donc Frédéric Mitterrand, était présent à l'inauguration. Et puis, la directrice générale de l'UNESCO, Madame Irina Bokova, a préparé un discours. Malheureusement, au dernier moment, elle n'a pas pu être présente, mais c'est Madame Caterina Stenou qui a prononcé ce discours.
Donc, Bernard Coyot, je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Alliance biblique française, qui est à l'origine de cette très belle initiative « La Bible, patrimoine de l'humanité », qui est une très belle exposition, et qui va poursuivre maintenant une vie sur le système itinérant.
L'exposition sera à Genève en juin prochain, en Bretagne, la première quinzaine de juillet, au Croisic,
et à la Criée
précisément,
aussi,
à la Criée au
du 1er au 16 juillet.
Voilà. Et puis, en septembre, elle va traverser l'Atlantique puisqu'elle sera en Guyane, à Cayenne. Ensuite, elle sera à Versailles en janvier 2011, au CNIT à la Défense à Pâques 2011. Et puis au Liban, j'oubliais, ça c'est un moment important pour nous. Elle sera là au Liban sans doute entre février et mars 2011.
Voilà, et il y aura d'autres dates en France aussi. Je vois Caen, Nantes, voilà, Orléans, Versailles
Melun,
en 2011.
Voilà, tout à fait.
Parfait, nous suivrons donc cette exposition sur votre site que les auditeurs de Canal Académie sont en train de découvrir sur nos textes qui accompagnent nos propos. Bernard Coyot, avant de nous séparer, peut-être un rapide regard sur ce sondage exclusif Ipsos dont il avait été question justement au moment de cette inauguration officielle il y a quelques semaines à l'UNESCO, les Français et la Bible. Près de 4 Français sur 10 possèdent une Bible, donc 37%, un chiffre en baisse, écrit-on. Parmi eux, 11 en possédant même plusieurs, mais la comparaison de ces résultats avec ceux d'une étude menée en 2001 montre que le nombre des Français détenant une Bible est en très léger recul. 42% à l'époque. Alors, on est passé de 42%, on est descendu à 37%. Mais un quart seulement des Français disent lire la Bible, donc 26%. Donc, on a une Bible chez soi à 37%, chiffre qui est déjà en diminution, mais on ne la lit qu'à 26%.
Oui, bah, c'est assez classique. C'est-à-dire, on se dit, bah, la Bible, c'est quand même important. Enfin, même dans les sphères, disons, un peu plus critiques vis-à-vis de la foi ou de la croyance, on sait que ça fait partie des choses importantes à lire, à découvrir. Alors, on l'achète, hein, et puis on la laisse dans sa bibliothèque. Donc ça, ça n'a rien vraiment d'étonnant. Alors, on peut prendre ces chiffres en se disant, finalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent la Bible. Ou au contraire, se dire, ah oui, il y a quand même un quart des Français qui lisent la Bible et qui, au fond, quand on les interroge dans ce sondage, c'est pas seulement pour un intérêt religieux et spirituel, même si c'est majoritaire, évidemment, mais aussi pour cette reconnaissance que la Bible a un intérêt culturel, un intérêt aussi littéraire. Et certainement, ce qu'on disait tout à l'heure, la place de la Bible, maintenant des textes bibliques, à côté d'autres grands textes de l'humanité dans l'enseignement, je pense qu'il y a une prise de conscience, un déblocage sur la Bible et sur son influence positive sur l'art, sur la réflexion, la pensée humaine. Parce qu'au fond, la Bible, avant d'être une parole de Dieu, comme les croyants le croient, elle est surtout et d'abord un grand miroir de l'humanité, avec porteuse de toutes les questions, de toutes les histoires, enfin, qui font que l'humain est humain. Et cet élément de miroir, ces histoires, ces contes, ces lois, ces épopées, tout ça, c'est quand même assez passionnant à découvrir. Voilà, en tout cas, ce sondage, c'était une manière aussi, puisqu'on essayait de mettre la Bible à l'UNESCO sous les feux de l'actualité, encore une fois, d'élargir ce cercle et d'intéresser les gens, attiser leur curiosité pour que peut-être eux, parce qu'au fond, c'est notre objectif, fassent le pas de prendre une Bible et de l'ouvrir et de commencer ce voyage.
Oui, parce que le cercle des non-convaincus est tout de même restreint. Seulement un non-croyant sur 10 estime que cette lecture n'a aujourd'hui aucun intérêt. Donc, c'est un petit pourcentage.
Alors, curieusement, quand on interroge aussi les gens sur les épisodes bibliques qu'ils connaissent, parce que ça faisait partie de ce sondage,
oui. Bon, ils pourront les
auditeurs.
Qu'est-ce qu'ils ont répondu?
Voilà, alors, donc finalement, il y a pas mal d'histoires qui habitent les.
Alors, quelle est l'huile parade des lectures bibliques?
Voilà, la première place, évidemment, c'est les récits de Noël. Hein. Bon, ça, on pouvait s'y attendre.
La naissance de Jésus.
L'arche de Noé. Voilà, ça, c'est peut-être un peu plus inattendu. La mort et la résurrection de Jésus. Bien sûr, Moïse, les plaies d'Égypte. Le combat de David et Goliath. Adam et Ève. Alors, après, il y a des histoires un peu moins connues. Par exemple, le dernier de tous les récits, c'était l'histoire de Job. Pourtant, on a bien quelques expressions autour de Job, hein, parce qu'on dit « pauvre comme Job » dans la langue française, mais les gens ont un petit peu oublié. Pourtant, c'est un très grand texte de questionnement sur la souffrance, le mal, sans qu'il y ait forcément de réponse. Voilà, enfin, en tout cas, ce sondage montre encore une fois cet intérêt et cette curiosité potentielle des Français sur la Bible.
Bernard Coyot, secrétaire général de l'Alliance biblique française, la Bible, un livre d'ouverture vers les autres cultures?
En fait, la Bible, elle est ce qu'on veut en faire, c'est-à-dire ça peut être un lieu d'ouverture. Et moi, évidemment, je milite beaucoup pour cela et aussi dans les fonctions qui sont les miennes à l'Alliance biblique. Ça peut être aussi un livre de fermeture, d'opposition, de combat. Voilà, on sait bien aujourd'hui dans le monde, comme d'autres livres d'ailleurs, dans le Coran ou d'autres. Voilà, enfin, la Bible, elle est un peu vulnérable. Hein, donc, c'est à nous d'en prendre soin, justement, qu'on essaie de ne pas en faire n'importe
c'est
quoi.
C'est une responsabilité.
Voilà, qu'on mesure aussi la distance entre le monde de la Bible. C'est un des lieux de l'exposition, évidemment. Les mondes de la Bible, elle a été écrite, elle n'est pas tombée du ciel. Elle a été écrite dans certains lieux, à certaines époques, avec un contexte culturel. Et donc, pour bien recevoir la Bible et cette sagesse intemporelle, si vous voulez, qu'elle contient, eh bien, il faut mesurer d'abord la distance entre notre culture, notre monde d'aujourd'hui, et les mondes et les époques où elle a été écrite. Donc, on contribue aussi à cela. Donc le fondamentalisme, en fait, c'est enlever la distance, c'est prendre la Bible comme une espèce de parole comme ça qui tombe du ciel et qu'on va prendre à n'importe quel moment pour n'importe quelle cause. Donc voilà, en prenant fait de cette distance, on la respecte, la Bible, et on peut recevoir, on peut être prêt à recevoir alors tout ce qu'elle va, parce que je pense qu'elle nous déplace aussi. Hein. Alors bien sûr, moi je peux parler comme croyant, on peut parler aussi comme non-croyant, mais la postérité de la Bible dans l'art, dans la littérature, c'est quand même étonnant. Hein. Et donc l'expo essaye de mettre ça en valeur. Voilà, je pense que c'est quelque chose que nos auditeurs peuvent aussi découvrir dans leur propre contexte.
Merci de votre venue devant les micros de Canal Académie. Merci beaucoup.
Merci.